Et à la une des hebdomadaires cette semaine, on est dimanche, hein, une parka rouge, des cheveux grisonnants et une ambition, devenir président de la France en 2022.
J'ai nommé Laurent Wauquiez, déjà président, mais seulement de la région Rhône-Alpes-Auvergne et bientôt probablement du parti Les Républicains, mais dont l'objectif principal reste évidemment l'Élysée. Pour cela, l'ancien ministre cultive ses réseaux, explique l'Obs, mais il a du chemin à faire, souligne l'hebdomadaire, la faute à son caractère solitaire, sans empathie, voire brutal, selon ses détracteurs. Tracteur. L'article décrit toutefois la capacité de l'ancien jeune premier de la droite d'être où il faut quand il faut. Libéral pro-européen à ses débuts, sarkozyste en 2007, proche de la Manif pour tous en 2013, et désormais accompagné dans sa campagne pour la conquête du parti de la jupéiste Virginie Calmels. Le tout avec un slogan, poursuit l'Obs, une droite vraiment de droite. Laurent Wauquiez s'est construit une image d'homme politique conservateur, limite réactionnaire, fustigeant l'assistanat et prônant les valeurs familiales et celles de la province, de la terre, lui qui est député de Haute-Loire en Auvergne, avec les grands écarts que cela implique parfois. Wauquiez, le nouveau démago de la droite, titre ainsi Marianne, qui se fait un plaisir de rappeler les origines très bourgeoises du futur patron des Républicains et son parcours universitaire, normal sup, ENA, assez éloigné du discours anti-élite qu'il tient à chaque réunion publique visant avec vigueur Emmanuel Macron. Et Marianne, de citer un autre expert en slalom politique, l'ancien député Les Républicains, passé à la Macronie, Thierry Solaire. Laurent Wauquiez est un garçon intelligent et très ambitieux, mais qui n'a aucune ligne idéologique et aucune barrière morale. Faire sauter les barrières, justement, la qualité principale de Laurent Wauquiez, selon Patrick Buisson, ancienne éminence grise et ultra-conservatrice de Nicolas Sarkozy. Officiellement, les deux hommes n'ont plus de contact depuis la brouille entre le journaliste et l'ex-président, dont les réseaux sont indispensables aux députés. Mais l'affiliation des idées est là, selon les deux hebdomadaires, l'Obs et Marianne, notamment dans la décision de Laurent Wauquiez de ne pas choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour de la présidentielle ce printemps.
Une présidentielle qui a permis d'écarter l'un des rivaux de Laurent Wauquiez, François Fillon.
Le Point revient sur la nouvelle vie de l'ex-futur président de la République et révèle d'ailleurs l'existence d'un dîner en juillet dernier entre François Fillon et Laurent Wauquiez, dîner durant lequel celui-ci a demandé à son ancien Premier ministre de ne pas s'opposer à son ambition de prendre la tête du parti. François Fillon, poursuit l'hebdomadaire, l'aurait encouragé car selon l'un de ses proches, il estime que le député de Haute-Loire est le moins susceptible d'en enfoncer un nouveau clou dans son cercueil politique. Car si François Fillon est désormais associé dans le fonds de gestion Tikeo, il continue en effet de ruminer sa débâcle à la présidentielle. Le Point revient sur le désastre de sa campagne, ruiné, vous vous en rappelez, par la révélation de l'emploi fictif de son épouse. Selon l'hebdomadaire, François Fillon aurait été contacté dès le mois d'octobre par un journaliste du Canard Enchaîné sur ce dossier. L'affaire n'éclate qu'en février et personne dans son entourage politique n'était apparemment au courant. Difficile donc de préparer une stratégie de défense. Aujourd'hui, François Fillon étudie justement la stratégie. Le Point a repéré sur une photo qu'il lisait « Les barbares à nos portes », l'un des plus célèbres ouvrages de littérature financière, ou comment un petit fonds de gestion a réussi à racheter l'un des géants américains de l'agroalimentaire, mais aucun rapport avec une certaine OPA réalisée sur l'Élysée.
Aurélien, demain sera décerné le prix Goncourt et nombreux hebdomadaires y consacrent des articles.
Alice Zniter, Olivier Guez, Véronique Holmy et Yannick Enel seront en effet sur les coups de midi demain. Lequel d'entre eux a été choisi par le jury réuni au restaurant Drouan à Paris? Mais le plus dur n'est peut-être pas tant d'avoir le Goncourt, estime Marianne, que de gérer l'après. Le prix peut bloquer plus qu'il ne libère, explique l'hebdomadaire, citant Jean Carrière, Goncourt 1976, et qui plonge ensuite dans la dépression pendant 15 ans. Il en tirera d'ailleurs un livre, le bien nommé Le prix du Goncourt, car la difficulté de recevoir la récompense la plus prestigieuse de la littérature française, c'est la pression de faire aussi bien ensuite. Pascal Rose et Alexis Génie, tous deux récompensés pour leur premier roman publié, racontent l'accueil hostile qu'ont reçu leur livre d'après Goncourt. Ça a été douloureux et inattendu. Il m'a fallu 10 ans pour faire oublier mon livre, explique Pascal Rose, alors qu'Alexis Génie a noté un peu de mépris et s'est senti comme le type qui a gagné le concours par hasard.
Pour les âmes blessées, justement, il existe apparemment une solution miracle pour trouver l'apaisement.
La sylvothérapie, ou pour faire simple, les promenades dans les bois. Le Point en fait même sa une, rien de nouveau sous les sapins. Pourtant, la balade en forêt faisait partie il y a un siècle des activités recommandées, notamment pour traiter l'asthme ou la tuberculose. Le biologiste japonais King Lee l'a remise au goût du jour en étudiant avec précision les effets de ce qu'il appelle les douches de forêt sur un groupe de cobayes. L'article liste les résultats, diminution des indicateurs de stress, de syndrome de dépression, d'anxiété, de l'insomnie, des données cardiaques et respiratoires qui s'améliorent. Bref, la forêt nous veut du bien.
Et nous devrions mieux nous comporter avec les arbres.
Tout à fait, c'est ce qu'explique Francis Allais dans une longue interview, toujours dans Le Point. Le botaniste s'alarme de la disparition à grande vitesse des forêts primaires dans la bande équatoriale, mais aussi de l'incompréhension que nous avons des arbres en tant qu'êtres intelligents. Il donne l'exemple des cyprès qui, en cas d'incendie, se délestent de leurs composés inflammables, des molécules qui, dans le même temps, avertissent les arbres voisins. La forêt sait communiquer et ses membres sont capables de s'entraider. C'est ce qu'a pu constater le biologiste américain David Haskell, qui est cité dans Le Point également. Il a passé des mois à scruter un tout petit mètre carré dans une forêt et il en a tiré un ouvrage que Le Point et moi-même recommandons, Un an dans la vie d'une forêt.
Merci Aurélien de Vernon, on va suivre votre conseil et comme c'est dimanche, on peut aussi aller se promener en forêt puisque ça fait du bien.